Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Et Laurence.
Et Laurence.
Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Laurence.
Bonsoir Gérald.
Et nous étions en train de parler de Sophia Loren.
Oui.
Qui était à Lyon aujourd'hui.
Oui.
Et ça nous enchante. Cette idée-là même nous enchante.
Oui.
Merci Bernard, merci Boris, aux manettes. J'ai pas entendu ce qu'il a dit Bernard.
Pas,
t'as parlé là Bernard?
Bonsoir à toutes, bonsoir
à
tous.
Voilà, c'est mieux, ouais, comme ça. Donc nous, on avait dit qu'on commencerait l'émission avec Romain.
Hein, Boris, il voulait dire bonjour.
Ah, il voulait dire bonjour, bah vas-y.
Le pauvre.
Non, bonsoir à tous.
Ah, Boris qui fait ses grands débuts finalement. Hein. Et là, il est un peu, voilà, il a commencé un petit peu stagiaire, puis maintenant il commence voilà, il est à la table, à la console, à manier les boutons. Et est-ce qu'on a pensé alors à notre petit Romain? Il est là?
Romano.
Romain, le rédacteur chef de Hétéroclite. Tu vois qui c'est, Laurence?
Oui, je vois très bien.
Moi aussi.
Très belle fille.
Bonsoir.
Oui, comment vas-tu?
Ben, je vais bien, merci. Et toi?
Bah, très bien.
Bon.
Bonsoir Laurence, bonsoir Boris.
Voilà, tout le monde est là. Alors, on entend des bruits bizarres autour de toi, on se demande...
Je sais pas ce qu'il fait.
Ouais, t'es dans ta cuisine, en train de te préparer ton repas du soir ou...
Oui, je suis dans ma cuisine, pour rien vous cacher, je pense pas que vous m'entendiez.
On entend tout, attention, avec les portables. Alors, du coup, je t'ai demandé d'intervenir par rapport à la parution, de la deuxième parution d'ailleurs, d'un guide qui cette année s'appelle Sissi, mais qui n'avait pas le même nom l'an dernier.
Donc, voilà.
Voilà, c'était Tutu l'an dernier.
Oui, tout à fait.
Et du coup, cette année, c'est Sissi.
Oui, c'est un guide culturel, en fait, qui recense, qui opère une sélection au sein de la saison 2015-2016 dans la région Rhône-Alpes, qui repère un peu les différents spectacles proposés dans les différentes structures culturelles et qui recherche les spectacles qui vont traiter de questions liées à l'homosexualité, aux identités sexuelles, à la question du genre, à la question également du féminisme et des rapports entre les femmes. Donc c'est un guide gratuit qui est tiré à 20 000 exemplaires et qui est distribué un peu partout dans la région Rhône-Alpes.
J'ai aussi pensé à Sissi Impératrice, mais là vous l'avez écrit avec un Y à la fin, donc ça fait plutôt penser à Tapette. C'est à dessin, je suis pute.
Tu supputes bien.
Ouais.
Tu supputes bien. Ouais. Effectivement... Alors nous, on l'a pas présenté comme ça, on n'a pas dit que ça voulait dire tapette, on a dit que c'est un individu qui est à la frontière entre les genres. C'est mieux dit quand même.
Oui, c'est très bien.
Et effectivement, c'est pensé aussi à Sissi, la princesse Sissi, qui est à la fois, je pense qu'il y a un modèle pour plein de petits garçons sensibles, et qui en même temps, pour d'autres petites filles, peut être vue comme une espèce de repoussoir, une espèce de figure imposée de la féminité, la princesse, tout ça. Et autant certains petits garçons peuvent s'identifier à Sissi, autant... certaines petites filles peuvent la rejeter, et c'est à ces petits garçons et à ces petites filles, enfin aux adultes qui sont devenus aujourd'hui, qu'on s'adresse en particulier.
D'accord. Alors, d'aucuns pourraient dire, mais on a déjà le guide out, pourquoi un deuxième guide?
Parce que ce n'est pas du tout pareil, Gérald.
Voilà. Mais oui, voyons. Il fallait qu'on pose la question quand même.
Ben oui.
Alors, out, c'est aussi un guide régional. C'est aussi édité par Hétéroclite, c'est aussi diffusé dans toute la région et c'est aussi sur les thématiques LGBT. Mais la différence, la grande différence, c'est que Out, c'est une sorte d'annuaire en fait des différents établissements et des associations gays et lesbiennes dans la région Rhône-Alpes. Là, on est vraiment dans Out, on est vraiment plus dans les commerces. Dans Sissi, on est dans le domaine de la culture, les spectacles, les festivals, les événements culturels. Les concerts, les expositions, voilà, c'est d'un côté la vie gay et de l'autre la culture.
Ouais. Et oui, donc il y a un rapport plus ou moins proche avec les thématiques LGBT ou les thématiques de genre. Nous sommes d'accord.
Voilà. Des fois des rapports très proches, des fois des rapports un peu plus creusés, mais beaucoup de spectacles cette année en rapport avec la question du genre et la question de la place des femmes aussi dans la société. C'est des thématiques qui font leur trou dans les saisons. On sent que les programmateurs et les programmatrices y sont sensibles et il manquait un outil en fait pour pouvoir répertorier tous ces spectacles-là. Et maintenant, cet outil existe avec Sissi et on espère que ça va encourager les artistes, mais aussi les programmateurs, les spectateurs, à soutenir ce spectacle-là.
Oui, parce que c'est vrai que la semaine dernière, on parlait justement de la présence des femmes dans le spectacle vivant. Pour noter qu'elles étaient assez...
Il y a encore de très, très grandes... Ouais, il y a de très grandes inégalités. Il y a l'association HF Rhône-Alpes qui travaille sur cette question-là, qui a sorti quelques statistiques. Il y avait un rapport qui a été remis dans les années 2000, un rapport qui a été remis au ministère de la Culture par... qui était rédigé par une femme qui s'appelait Reine Pratt, qui relevait de très fortes inégalités. Voilà, par exemple, dans le... parmi les directeurs à la tête des structures culturelles, c'est très souvent des hommes. Les femmes, enfin, il n'y a pas du tout une parité 50-50 entre hommes et femmes. Idem dans les metteurs, la répartition entre metteurs et metteurs en scène, entre les textes aussi. Les textes sont beaucoup plus souvent écrits par des hommes que par des femmes. Etc. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de spectacles qui s'attaquent à cette question-là, qui en parlent en tout cas. Alors ça veut pas dire après que les bonnes pratiques qu'il y ait forcément des bonnes pratiques dans le spectacle vivant, pas toujours malheureusement, mais il y a des associations comme HF Rhône-Alpes qui travaillent à faire évoluer les choses.
Cette année, pour le guide Sissi, vous avez eu plus de choix dans les spectacles par rapport au guide Tutu de l'année dernière, ou c'était kiff-kiff?
Tu veux dire,
est-ce qu'il y avait plus de spectacles existants qui pourraient rentrer dans le guide Sissi? Vous avez été obligé de faire un choix?
On a été obligé de faire un choix, forcément, parce que c'est une sélection. Mais après, non, on a eu plutôt plus de spectacles. Là, cette année, dans le guide, il y a 80 spectacles qui sont référencés, ou événements culturels. Il y en avait peut-être, je crois, une soixantaine l'an dernier. Donc, il y a quand même une progression d'un tiers. Voilà. Alors après, l'an dernier, on avait moins de place aussi. On a un peu changé la maquette du guide, qui se présente un peu différemment. Donc, on savait qu'on avait plus de place, donc on a été moins sélectif dans nos choix, enfin moins sourcillons. On a éliminé moins de spectacles, on va dire. Mais en tout cas, oui, c'est une thématique qui est fortement présente.
L'équipe de rédacteurs, c'est l'équipe du journal Hétéroclite.
Pas toute la rédaction Hétéroclite, mais ils sont pour l'essentiel, oui. Alors il y a Renan Beniamina, qui est le fondateur d'Hétéroclite, Stéphane Caruana, qui écrit en théâtre et en danse, qui s'occupe notamment des spectacles de théâtre et danse, Guillaume Volban, qui écrit en musique, qui a parlé de la partie concert. Il y a Patrice Desguin aussi, qui ne fait pas partie officiellement de la rédaction d'Hétéroclite, mais qui est l'ancien adjoint à la culture de la ville de Lyon, qui a été l'adjoint de Gérard Collomb pendant son premier mandat entre 2001 et 2008. Et donc, qui a écrit une partie sur les œuvres d'art contemporain en Rhône-Alpes, qui interroge le genre, donc c'est assez intéressant aussi. Et puis, il y a votre serviteur aussi pour la partie rédactionnelle.
Très bien. Alors, le guide Sissi, par exemple, les auditeurs qui nous écoutent vont avoir évidemment, ceux qui ne l'ont pas encore, une envie folle de se ruer sur le guide. Et comment vont-ils faire pour trouver ce précieux guide? Donc, quand même tiré à 20 000 exemplaires, certes, mais où pouvons-nous le trouver?
Eh bien, il faut qu'ils se rendent dans la structure culturelle, la scène nationale la plus proche de chez eux. En région Rhône-Alpes, ils devraient le trouver. Ils peuvent aussi aller dans, par exemple, l'office de tourisme qui est sur la place Bellecour. Place Bellecour, il y a aussi une petite boutique de souvenirs qui s'appelle Kiosque Lignon où on peut trouver ceci. Et puis, si il est toujours possible que les lieux sont en rupture de stock, si c'est le cas, ils peuvent également nous contacter depuis notre site, hétéroclite.org. Il y a une section où on peut envoyer des messages. Et voilà, si vous n'arrivez vraiment pas à le trouver, ça peut toujours arriver, mais normalement, ça devrait pas se produire, mais ça peut arriver. N'hésitez pas à nous envoyer un mail avec vos coordonnées et on vous indiquera où vous pouvez trouver ceci près de chez vous.
Très bien, un bon entendeur, salut. Bah, Romain, nous allons nous quitter là-dessus. Merci en tout cas. Là, tu es en pleine préparation du prochain numéro de Hétéroclite.
Voilà, numéro de novembre qui sortira le 4 novembre, qui sera un spécial Saint-Etienne, puisque en novembre à Saint-Etienne, il y a le festival Face à Face, le festival du film gay et lesbien. Et donc, pour l'occasion, on se penche sur la vie culturelle et LGBT stéphanoise.
Très bien.
Très bien.
Bon. Eh ben, pour une fois, on ne fera pas de commentaires voilà, sur
la région stéphanoise.
Fallait oser, oui.
Je sens que Laurence n'a pas pu se retenir.
Très bien, merci en tout cas, Romain, d'être intervenu.
Merci à vous.
Et puis à très bientôt pour de. Merci. Et
à bientôt.
À bientôt pour de nouvelles aventures.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Donc maintenant, on va écouter un petit morceau de musique avant de passer à la suite. La suite, on va parler de l'existence, la marche de l'existence qui va se dérouler samedi à Paris. Et nous aurons un intervenant du collectif Existrance. Alors, on va passer la musique qui était prévue. Alors, c'est toi qui l'avais choisie.
Mais oui, c'est Grace Jones.
Grace Jones.
C'est une chanson qui est dans le film, l'excellent film même, je dirais, Pride. Et donc, c'est une chanson qui date de 1981.
Oui.
Ça ne te rajeunit pas. Tu n'étais pas né peut-être, voilà, parce que exactement. tu es né en 82,
voilà, c'est pour moi.
Donc le titre c'est Pull Up the Bumper, une excellente chanson. Mais
vous avez noté qu'elle est bien dressée maintenant.
un chef-d'œuvre musical, je devrais dire.
Oui, oui. Est-ce qu'elle est prête, Grace Jones? Est-elle maquillée, attifée, prête à paraître?
pluriel, 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 pluriel.
Et nous voici de retour dans les studios de Pluriel Gay. Merci à tous et à toutes de nous écouter. Alors, si tout va bien, nous devons être en ligne avec Aaron. Est-ce que Aaron est là? Esprit, es-tu là? Il est là.
Bonjour.
Bonjour, bonsoir, comment allez-vous?
Très bien, merci, et vous?
Ça va bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Aaron, je vais vous laisser vous présenter. Nous, on vous a demandé d'intervenir ici. On a demandé en tout cas à quelqu'un du collectif Existrance d'intervenir à l'émission parce que samedi à Paris aura lieu la 19e marche de l'Existrance. Et on a demandé donc à une personne du collectif d'intervenir. Donc, si vous voulez bien déjà nous dire qui êtes-vous, Aaron.
Donc, je suis Aaron. et je fais partie du collectif Existrance.
Voilà, jusque-là, donc j'avais tout juste, c'est bon.
Voilà, donc jusque-là, on est tout à fait d'accord. Qui est donc un collectif qui organise tous les ans, depuis 19 ans, la marche Existrance, qui est la marche des personnes trans, intersexes et de toutes les personnes qui les soutiennent. Et cette marche aura lieu samedi 17 à Paris. Voilà. Pour la 19e fois, donc.
C'est la 19e marche, donc Existrance. Alors, le collectif Existrance regroupe, je suppose, de nombreuses associations, diverses et variées.
Exactement, beaucoup d'associations trans, intersexes, aussi beaucoup d'associations LGBT qui les soutiennent, et d'autres associations aussi qui sont d'accord avec nos revendications.
D'accord, donc des associations militantes et aussi des associations de support.
Exactement.
Bien. Alors, donc, l'Existrance, c'est samedi, on a dit, pour la 19e fois. Et il y a évidemment, comme toutes les marches, toutes les années, un mot d'ordre. Et cette année, le mot d'ordre, il est, je dirais pas violent, mais il est un petit peu dur quand même, parce que vous nous dites que les autres avancent tandis que la France recule. Alors, dans votre mot d'ordre, en fait, on cite plusieurs pays qui ont l'air donc effectivement d'avancer sur les revendications que vous défendez. Seule la France serait donc en retard sur les revendications des personnes transgenres, notamment, et on parlera aussi des personnes intersexes. Donc la France est si en retard que ça?
Oui, alors on ne peut pas dire que la France est la seule en retard. Il y a d'autres pays en retard, ou en tout cas au même point que la France. Mais la France est très clairement en retard. Depuis plusieurs années, notamment depuis 3 ans, on a vu vraiment une accélération très très rapide des avancées des droits pour les personnes trans et intersexes dans beaucoup de pays. Donc parmi les pays qu'on cite, il y a notamment l'Argentine qui a ouvert... vraiment ouvert le bal en 2012, qui a été le premier pays à voter une loi qui permet le changement d'état civil libre et gratuit. Et suite à l'Argentine, il y a eu vraiment un enchaînement de pays, le Danemark, l'Irlande, Malte. Là, le dernier pays en date, c'est Québec, qui a voté une loi dans ce sens-là. Et en France, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien. Ça n'avance pas, ça ne bouge pas et... Quand on est dans le pays qui a tendance à souvent s'autoproclamer pays des droits de l'homme, c'est un peu difficile à avaler.
D'accord. Alors, il est vrai que les revendications principales des personnes transgenres concernent, si je me trompe, vous me le direz, le changement d'état civil qui est en France assujetti à toute une série de contraintes que vous réprouvez complètement, qui vous paraissent tout à fait anormales. Une des contraintes, on pense à la stérilisation forcée, en quelque sorte. Par exemple, il y en a d'autres, vous allez nous le dire d'ailleurs. C'est votre revendication principale?
Exactement, ça fait plusieurs années que le changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil et sans aucune condition, que ce soit médicale ou psychiatrique ou d'homologation par un juge, c'est vraiment au cœur de nos revendications. Tout simplement parce que c'est un point qui est extrêmement bloquant pour les personnes trans ou intersexes qui désiraient accéder à ce changement d'état civil. Tout simplement parce que sans changement d'état civil, il faut s'imaginer vivre avec une carte d'identité et un passeport, avec le mauvais prénom, avec la mention de sexe qui ne correspond pas avec ce qui vous êtes et la façon dont vous vivez au quotidien. Donc vous imaginez bien que c'est compliqué à des niveaux extrêmement variés, mais c'est compliqué tout le temps. C'est compliqué de trouver un emploi, c'est compliqué d'avoir un appartement, c'est compliqué d'ouvrir un compte en banque, c'est compliqué même d'aller chercher un colis à la poste ou de prendre un avion. Donc c'est une revendication qui est centrale tout simplement parce que c'est un problème qui paralyse complètement les personnes trans et intersexes et qui précarise énormément cette population-là.
Alors, pourquoi, d'après vous, en France, existe-t-il encore un tel blocage ? Et d'où viendrait ce blocage ? Est-ce que ça viendrait plutôt de l'institution médicale, par exemple ? Ou plutôt du côté politique ?
Je pense que c'est en partie politique, c'est-à-dire qu'on est d'autant plus en colère, je dirais, cette année, qu'on avait eu des promesses de campagne du candidat Hollande qui n'ont pas du tout été tenues par le président Hollande, qui avait, parmi ses promesses de campagne, dit qu'il ferait avancer les droits des personnes trans, et rien n'a été fait dans ce sens du tout. Oui, c'est très bloquant, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, pour obtenir un changement d'état civil, il faut passer devant un tribunal de grande instance, c'est une procédure juridique, donc c'est long, ça coûte cher, donc ça précarise, enfin, ça met encore de côté les gens qui sont de fait déjà les plus précaires, et ça oblige aussi à répondre à un certain nombre de critères, notamment de psychiatrisation, de médicalisation, comme vous avez dit. Aujourd'hui, les critères principaux passent aussi par une stérilisation forcée, ce qui pour nous est absolument inacceptable.
Oui, c'est ça.
Donc en fait, vous avez l'impression que vos revendications, les revendications que vous portez, et malgré tout, je dirais, le mouvement militant qui s'est développé depuis une vingtaine d'années, ne portent pas leurs fruits auprès des politiques.
Non, pour l'instant, on a vraiment pas l'impression d'être entendu, parce que voilà, comme je vous ai dit, absolument rien n'a bougé, et ça fait de nombreuses années que rien n'a bougé du tout. Je pense que vraiment la dernière chose qui a été faite pour les personnes trans, ça a été de dépsychiatriser le fait d'être trans, c'est-à-dire qu'on a dit que le fait d'être trans n'était plus une maladie psychiatrique, ce qui est un geste qui est positif, mais qui en concret n'a absolument rien changé pour les personnes trans. Donc c'est écrit quelque part, c'est bien, mais malgré tout, malgré cette dépsychiatrisation sur le papier, les personnes trans sont toujours obligées de passer devant un psychiatre pour avoir accès notamment aux traitements hormonaux. Donc c'est positif et finalement ça n'amène aucune avancée, donc aujourd'hui oui, on stagne complètement.
Est-ce que dans les associations de militants, dans les associations de support ou d'autosupport, ou les associations amies, il se trouve des associations en rapport justement avec du personnel médical qui ne sont pas toujours très bien formés justement aux problématiques, entre guillemets, trans? Je veux dire, trans, vous évoquez les difficultés administratives, par exemple, pour une personne transgenre, mais il y a aussi des difficultés avec le monde médical, peut-être aussi.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une des revendications de la marche existante cette année. C'est aussi de financer la formation des personnels qui sont en contact avec les personnes trans et intersexes. Donc là, plus spécifiquement sur le médical, je vais vous en parler un petit peu, mais aussi de toutes les personnes qui peuvent être amenées à être en contact, que ce soit dans le social, dans les administrations, dans les écoles, etc. Mais effectivement, sur le point de vue médical, c'est très compliqué parce que on a aujourd'hui des médecins, des étudiants en médecine qui n'apprennent absolument rien sur les personnes trans et intersexes. Et quand ils apprennent quelque chose, en général, c'est des concepts extrêmement vieillots et réactionnaires, en fait, qui considèrent vraiment le fait d'être trans comme une maladie psychiatrique. Et donc qui n'aident pas aujourd'hui à avoir des médecins qui sont compréhensifs, ouverts et qui sont même en mesure d'apporter des soins de qualité. Et c'est un problème, notamment quand on a un parcours qui est souvent médicalisé, pas de la même façon et pas pour tout le monde selon les choix de parcours de chacun et de chacune, mais on est souvent amené à avoir des médecins, et c'est d'autant plus compliqué quand on a des médecins qui sont parfois transphobes, et quand ils sont pas transphobes, sont pas formés et sont pas en mesure de nous aider comme on a besoin d'être aidé tout simplement pour avoir un suivi de qualité.
Est-ce que vous pensez que on a parlé, là on va parler un petit peu des personnes intersexes justement, il y a eu une décision du tribunal de grande instance, je crois, de Tours, qui est tombée aujourd'hui,
ouais.
Donc suite à une procédure qui avait été engagée en justice pour la reconnaissance donc d'une personne, en fait le problème des personnes intersexes, on peut le distinguer quand même des personnes transgenres, même si l'existence concerne aussi les personnes intersexes qui ont aussi leurs propres problématiques liées à la législation française notamment, et aussi au fait, au monde médical qui assigne un petit peu un sexe à l'enfant intersexe sans lui demander son avis, en fait, et sans attendre qu'il soit adulte, par exemple, pour qu'il décide, en quelque part. Est-ce que je me trompe là-dessus? Est-ce que c'est l'assignation sexuelle de la personne intersexe, c'est bien le problème principal, la revendication principale.
Il y a deux choses pour les personnes intersexes. Alors, il y a effectivement l'assignation de force. Le vrai problème, c'est que derrière cette assignation, il y a aussi souvent une opération génitale qui est une mutilation, ni plus ni moins. Quand l'enfant intersexe naît, les médecins, selon une gamme de critères, décident que cet enfant est un garçon ou une fille, souvent sans laisser beaucoup de choix aux parents qui sont démunis, qui sont apeurés et à qui ça tombe dessus, qui ne sont pas du tout prévenus, ni à qui on n'explique pas exactement ce qui est en train de se passer, donc qui n'ont pas vraiment de moyens de défendre non plus une autre position. Et ces enfants sont mutilés à la naissance, sont souvent soumis à plusieurs opérations pendant leur enfance, leur adolescence, des traitements parfois hormonaux qui va à l'inverse de leur choix, de leur identité de genre, et effectivement qui se retrouvent à être obligés de rentrer dans une case qui ne leur convient pas, et surtout à qui on ne demande pas du tout leur avis. Donc une des requêtes principales, une des demandes principales de l'existence, c'est d'arrêter immédiatement les mutilations sur les enfants intersexes et de leur laisser le libre choix à l'autodétermination. Faut laisser à ces enfants la possibilité d'exprimer leur genre comme ils le souhaitent, de respecter les prénoms, les pronoms qu'ils veulent choisir et qu'ils veulent utiliser, et qu'ils aient accès aux traitements hormonaux à l'âge où ils le demandent, où ils en ont besoin.
On peut dire aussi, enfin je suppose, peut-être que je me trompe, mais que lorsqu'il y a une assignation génitale sur la base d'une chirurgie par exemple, ou d'un traitement hormonal, on va choisir peut-être l'opération quand il y a une chirurgie qui est mise en mouvement, je dirais, on va choisir la chirurgie la plus facile peut-être pour l'enfant. Donc il y aura peut-être un sexe qui s'est privilégié à l'autre, non ?
En fait, c'est tout un tas de critères qui sont pris en compte. C'est-à-dire que souvent, ils vont vérifier. Alors, il y a effectivement l'apparence visuelle externe génitale. Il y a les organes internes. Il y a le profil génétique. Il y a tout un tas de critères qui sont regardés. Et à partir de ça, les médecins font un choix et déterminent le genre de l'enfant.
Qui n'est pas
sur des critères qui sont strictement médicaux. Ouais. Et bien sûr, ça, c'est dans la très jeune enfance. Donc, sans que l'avis de l'enfant soit aucunement écouté dans ce processus.
Et il peut en résulter une souffrance donc dans la vie adulte.
Bien sûr.
Ouais.
Une souffrance physique parce que c'est des enfants à qui on peut qu'on peut forcer à avoir de nombreuses chirurgies, et une souffrance psychologique parce que ce sont des enfants qui parfois sont forcés de grandir dans un genre qui n'est pas forcément leur, dont on bride l'expression de genre. Et qui ne sont pas forcément écoutés par la suite non plus, comme les enfants trans d'ailleurs.
Alors justement, j'évoquais le verdict, je dirais, du tribunal de grande instance de Tours, qui donc a autorisé une personne intersexe à avoir des papiers qui seraient donc établis sous un régime de neutralité, je dirais. Ça serait pas masculin, pas féminin, mais genre neutre. Genre neutre qui existe déjà, qui est dans certains pays d'ailleurs au niveau administratif. C'est une décision qui pourrait faire jurisprudence, mais je sais aussi que le parquet, donc le représentant de l'État, a fait appel, évidemment.
Bien évidemment.
Exactement.
Et que pensez-vous donc de cette décision, par exemple ? Est-ce que c'est une avancée pour vous quand même majeure ?
C'est une avancée dans la mesure où un juge a dit à une personne qu'il reconnaissait son droit à l'autodétermination.
Ouais.
Et dans les propos du juge, c'est ce qui en ressort, c'est-à-dire que le juge a entendu que cette personne se reconnaissait de genre neutre et que finalement c'était suffisant pour déclarer que cette personne était genre neutre, que c'était l'autodétermination de la personne qui devait primer. Donc effectivement, c'est une décision importante, c'est une décision positive, mais comme vous l'avez dit, l'État s'est empressé de faire appel, donc le problème maintenant c'est de savoir ce qu'ils vont en faire, parce que on sait bien quand même que si l'État veut faire traîner, aller en appel, etc., ça peut prendre des années, des années, des années, et ça veut dire aussi une procédure juridique qui coûte extrêmement cher, etc. Donc c'est aussi dur à vivre pour la personne qui peut-être s'embarque dans des appels à répétition pendant des années et des années.
Alors, une dernière chose, Laurence, peut-être as-tu envie de t'exprimer, ma petite Lolo. Non, bon.
Non, mais je voulais parler de Tours, donc c'est fait. C'est
oui, voilà, bien, c'est fait, voilà. Mais c'était important, c'est une information importante. Non, mais en plus, il se trouve que la formation est arrivée aujourd'hui, en fait. Hein.
Oui.
Une dernière chose, Aaron, avant de vous laisser tranquille. Qu'est-ce que vous pensez quand même, je pense à mon avis, qu'il y a quand même une visibilité accrue des personnes trans depuis quelques années. C'est souvent en provenance des États-Unis, d'ailleurs. Est-ce que vous pensez quand même que cette visibilité, cette médiatisation, on dira, peut avoir quand même un effet positif sur la cause transgenre ?
Oui, je pense que c'est bien que les personnes trans et intersexes soient médiatisées. Après, bien sûr, ça dépend un peu de comment elles sont médiatisées, parce que parfois dans la médiatisation, on oublie. Enfin, dans la médiatisation, on parle du coup souvent de personnes connues, c'est un peu la définition. Mais du coup, on voit aussi des personnes qui sont souvent aisées, qui ont les moyens d'avoir accès à certaines choses, à un certain rythme de vie, et ça a tendance un petit peu à effacer la réalité des personnes trans lambda. Qui vivent dans beaucoup plus de précarité, avec beaucoup plus de complications, avec moins d'argent, et donc il faut pas que ce soit double, faut pas oublier les vrais gens, j'ai envie de dire, qui et la réalité de leur vie, qui sont beaucoup plus compliquées que celles des personnes trans qui peuvent être médiatisées. Mais oui, je pense que c'est bien, je pense que ça a aidé à faire bouger les choses, et je pense qu'il y a aussi certains porte-drapeaux en ce moment aux États-Unis. Je pense notamment à Laverne Cox, qui ont un discours qui est vraiment extrêmement positif, et notamment parce qu'il est inclusif des personnes trans de couleur, par exemple, des personnes trans précarisées, des personnes trans incarcérées. Et donc c'est vraiment le genre de personnes qui aujourd'hui font avancer, je pense, la cause trans, en se cachant pas non plus derrière des paillettes, mais en essayant de médiatiser la réalité des personnes trans aujourd'hui.
Aaron, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons devoir nous quitter parce que malheureusement l'heure tourne, mais nous serions bien restés encore un petit peu plus longtemps. On va juste rappeler donc la marche du collectif Existrance, la marche Existrance. Donc c'est samedi à Paris, samedi 17 octobre. Ça commence à 14h et que c'est métro Stalingrad, je crois.
Exactement, départ 14h métro Stalingrad. En espérant qu'on sera très nombreux, encore plus nombreux que l'an dernier.
Ben, nous vous souhaitons une très bonne marche, en tout cas. Beaucoup de succès pour cette marche et pour la réussite, évidemment, de vos revendications. Merci, Aaron, d'avoir accepté notre invitation. Bonne soirée, à très bientôt.
Merci, bonne soirée.
Donc, du coup, on va rappeler que Chrysalide, parce qu'on va parler un petit peu quand même de l'association Chrysalide, qui est l'association lyonnaise transgenre, sera présente à la marche Existrance. Donc il suffit tout simplement de repérer la banderole Chrysalide pour les Lyonnais qui monteraient à la capitale et retrouver pour la banderole Chrysalide pour marcher avec les Lyonnaises et les Lyonnaises qui seront montées à Paris.
Pour revenir sur le sujet, je trouve ça... De quel droit les médecins, chirurgiens... se donne le droit d'opérer un enfant.
Je pense parce qu'il y en a beaucoup qui sont persuadés avoir raison.
Voilà. Oui, non, mais c'est fou, c'est que... est-ce que légalement, il n'y a pas un texte qui dit qu'ils n'ont pas le droit de faire ça ?
Je sais qu'il y a des directives européennes, en tout cas, directives européennes ne restent que dans ses limites, quoi.
Il
n'y a pas force de loi.
J'aimerais savoir si il y a des parents... d'enfants qui naissent intersexes, est-ce qu'il y a des parents qui s'opposent ?
Oui.
Qui se disent « Non, vous touchez pas mon enfant, on verra comment, comment il grandit, ce qu'il veut faire de son corps, de sa vie, vous n'y touchez pas. »
Oui, alors c'est vrai que ça, c'est des questions...
C'est vrai, ce que disait Aaron tout à l'heure, c'est que souvent, les parents sont un peu sonnés, c'est quelque chose à laquelle ils ne s'y attendent pas, ils ne sont pas au courant, la plupart, ils ne savent pas sûrement ce que c'est. Les médecins, ils arrivent avec leurs airs de médecins. Bon, ils connaissent l'anatomie, ce genre de choses, mais ce ne sont pas eux qui décident de tout et du psychologique de l'enfant après, quoi.
Oui, bien sûr.
Donc, je pense que les médecins, ils ont un peu ce pouvoir-là. Et moi, j'aimerais savoir s'il y a des parents qui disent non.
Eh bien, tu sais, on avait pensé un jour organiser une émission spéciale sur les personnes intersexes. Et c'est dans un coin de ma tête et j'espère bien pouvoir le faire un jour ou l'autre, en tout cas. pour répondre à toutes ces questions, effectivement. Moi, je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'en ce qui concerne le problème transgenre, moi, ça me fait penser beaucoup au problème homosexuel dans les années 50, 60 et 70, à une époque où on était aussi pathologisé, puisqu'on était dans les maladies psychiatriques, l'homosexualité est considérée comme maladie psychiatrique, et où on voulait changer de force l'orientation sexuelle des gens en leur imposant des traitements horribles, chimiques, des électrochocs, etc. Et on retrouve dans, chez les personnes transgenres, notamment, un mode de militantisme qui ressemble beaucoup dans l'esprit à celui qu'avaient les gays et les lesbiennes dans les années 50, 60 et 70. Sans compter qu'on évoque souvent Stonewall, qui est considéré comme le marqueur, hein, l'année zéro de la militance LGBT. Et à Stonewall, beaucoup de personnes trans ont participé aux émeutes de Stonewall également. Voilà. Donc, on va peut-être passer encore une petite chanson. il s'agira de Patti Smith.
Très bien.
C'est ça Red on the Beach. Après, on se retrouve. Parler de Canal+, après.
Très bien.
Father died.
Présentée par Gérald
et Laurent. Voilà, donc on est de retour. Merci à toutes et à tous d'être été avec nous. Nous allons, alors, je voulais parler Canal+. Il y a longtemps, je voulais en parler. Oui. Bon, tu vas me dire pourquoi Canal+, on n'en a rien à faire de Canal+, finalement.
Un peu. Mais voilà. Non, pas tout le temps.
Pas tout le temps, oui, parce que quand même, Canal+, fut une époque où Canal+, représentait donc un esprit... On a parlé de l'esprit Canal+. Bon, c'est un esprit, on parlerait d'audace, de dérision de liberté, de ton. Bon, certes, c'était une chaîne cryptée, donc ils avaient peut-être un peu plus de liberté de faire un peu ce qu'ils voulaient. C'était, une chaîne qui est née en 84, sous l'impulsion de M. Mitterrand et de Jack, notre copine Jack Lang.
Jack.
Et,
copine Jack.
Et Canal+, donc, c'était un peu exultoire, on va dire. C'est souvent, il y avait des émissions. Bon, il y en a qui disent, ouais, c'était vulgaire, mais c'est vrai que Canal+ faisait des choses au début que maintenant, on n'imaginerait plus à la télévision française.
C'est pas faux.
Il y en a qui peuvent le regretter.
C'était drôle. Enfin, c'était drôle. Après, il faut aimer l'humour, mais au moins, c'était une télé où il y avait du vrai direct. Et il pouvait se passer des choses, des moments télé. Quoi.
Voilà, avec des émissions mythiques, les Guignols de l'info en est une qui est plus célèbre, puisque c'est celle qui a duré le plus longtemps. Mais on avait Nulle part ailleurs, il y a eu évidemment Les Nuls, Les Des Chiens, Les Excellents Des Chiens, il y avait Le Vrai Journal de Carl Zéro, etc. C'est des émissions qui étaient considérées comme à part, quoi, avec un air de liberté qu'on ne retrouvait pas ailleurs.
Est-ce qu'il y avait Groland dès le début ou pas ?
Non, c'était pas tout à fait au début. Groland, ça a dû arriver une dizaine d'années après. Ça doit faire une vingtaine d'années qu'ils sont sur Canal+. Et puis, bon, on sait que Canal+ a effectué un tournant, bon, qui a été un petit peu, accentué par l'arrivée de Vincent Bolloré, dont on a beaucoup parlé, etc. Pourquoi est-ce que je parle de tout ça ? C'est parce que justement, à l'époque où Canal+ pouvait être considéré comme une sorte de pionnière de la télévision française sur certains sujets de société, Canal+ a été la première chaîne à proposer une nuit gay. Et cette année, c'est le 20e anniversaire. C'était donc en 1995, exactement le 23 juin, que donc a eu lieu cette première nuit gay, la première nuit gay de Canal+. Et cette année, ils fêtent donc le 20e anniversaire. Alors, cette première nuit gay, bon, il faut dire qu'auparavant, déjà, dans L'Œil du Cyclone, il y avait souvent, c'est une émission aussi mythique, une émission mythique, L'Œil du Cyclone de Canal+. Il y avait beaucoup de thématiques LGBT qui étaient représentées dans L'Œil du Cyclone. En 94, Alex Taylor, lui-même, avait présenté, donc...
Notre copine Alex Taylor.
Voilà, L'Œil du Cyclone. L'Œil du Cyclone, c'était un format court hein, de 26 minutes. Et donc, ça avait été l'occasion déjà de parler de présenter des documents sur les revendications homosexuelles depuis Stonewall. Et l'année suivante, le 23 juin, c'est carrément une nuit complète. Mais alors, une vraie nuit, ce qu'ils ont appelé la nuit gay, ça s'est jamais reproduit depuis. C'est-à-dire que ça a commencé à 20h50 et ça s'est terminé à l'aube. Toute la nuit, d'un seul coup, Canal+ a décidé, voilà, on va faire comme si on était... l'univers avait basculé, on est passé de l'autre côté du miroir et en fait, le monde est devenu LGBT.
Génial.
Voilà. Et ça, ça a duré une nuit.
C'est la fête.
Voilà, ça avait été, donc la nuit avait été concoctée par des personnes de Canal+, dont le responsable du programme s'appelait à l'époque Alain Buros, et avec toute une équipe, ils avaient donc organisé cette nuit à travers des documents, à travers des documentaires, à travers aussi des témoignages portés par des gens qui étaient pris dans toute la France, en dehors de Paris ou des grandes villes. Donc on allait voir l'agriculteur breton ou le couple de lesbiennes dromoises, tu sais, qui habite au fin fond de la montagne.
Le fameux couple
avec enfants déjà à l'époque. Oui, chacune avait leurs enfants à elle. Vous avez eu une vie avant, je me rappelle très bien de cette séquence. Et c'est dans un tout petit village de la Drôme, hein, Boris, tu connais bien la Drôme. voilà, je me souviens de ça, ça m'avait marqué. Elles étaient là dans leur cabane en rondin de bois et au coin du feu.
Elles avaient un petit garçon qui s'appelait Boris. Ah
mais oui, c'est lui, on l'a retrouvé.
C'est là, c'est lui.
Alors du coup, il y avait toutes sortes. Il y avait aussi, je me souviens, ils sont allés à Carpentras. Ils avaient interviewé, je me souviens très bien, un chauffeur routier gay. Ça, c'était très intéressant aussi. Voilà, qui expliquait comment le matin, il allait poser son camion dans les endroits où il savait qu'il allait pouvoir trouver l'âme frère d'une heure, un peu plus ou un peu moins, ça dépend.
Et ben, en parlant de routier, j'ai rencontré un jeune homme il y a quelques années, dont le petit ami était routier. Je ne sais pas si c'est encore son petit ami, bref. Et je dis, ah, tiens, routier, c'est, ça dénote complètement l'image qu'on peut avoir des gays. Enfin, je crois qu'il y a 99% des Français qui doivent se dire, tu peux pas être routier et gay, c'est pas possible. Et,
comme on peut dire, tu peux pas être coiffeur pour dame et hétérosexuel, par exemple.
C'est exactement ça. Et du coup, il m'a dit que c'était donc une légende, une vraie légende, parce qu'il y avait énormément de gays chez les routiers et qu'il y avait plein de coins drague.
J'ai jamais
beaucoup
raconté...
de routiers allaient se rencontrer.
Je t'ai jamais raconté ma vie.
Et oui.
J'ai jamais raconté ma vie sexuelle dans le passé.
Non, mais non.
Je pourrais parler des routiers si tu veux, mais on le fera hors antenne.
Hors antenne.
Ouais. Donc du coup, dans cette émission, la nuit spéciale Canal+, la nuit gay, il y avait aussi vraiment, il y avait des trucs très intéressants, des choses très intéressantes. Ils avaient demandé par exemple à des gens de filmer des petites scénettes qui entrecoupaient les différents documentaires. Ils avaient repris les formats des journaux de Canal+, les formats courts de journaux de Canal+, qui étaient présentés par des personnalités LGBT. Présenter que des actualités gays, lesbiennes, trans, etc. du monde entier. Il y avait eu un reportage, pour les filles, il y avait eu un très beau reportage, j'avais trouvé très bien d'ailleurs, que j'ai revu depuis, que je trouve toujours très d'actualité, ça s'appelait Lesborama, qui était fait, alors un reportage fait par des filles pour des filles, en France, mais aussi avec des détours par les États-Unis, le Canada, etc.
Et pas seulement la Drôme, alors.
Non, pas seulement la Drôme. La Drôme, c'était plutôt dans le cadre de ce Tour de France qui faisait des personnalités, de personnes, quoi, comme toi et moi, mais qui vivaient comme ça dans des endroits complètement atypiques, finalement, pour des gays et des lesbiennes, et qui exerçaient des professions, comme on le disait, atypiques pour le commun du mortel. Voilà, il y avait donc eu plusieurs documentaires, dont un aussi qui ouvrait la soirée, et qui s'appelait Demain Monsieur. Alors là, tu vas me dire, c'est encore un peu macho. Oui, parce que ça concernait exclusivement l'homosexualité masculine, ou presque. En fait, ils étaient basés sur la trame d'une émission qui s'appelait Aujourd'hui Madame. Je sais pas si tu te souviens de ça. Tu es peut-être trop jeune.
Mais ça me dit quelque chose.
Voilà, Aujourd'hui Madame, c'était une émission de l'après-midi, comme le nom l'indiquait, pour les femmes, puisque les femmes étaient censées rester à la maison.
Bien sûr.
C'est des émissions qui étaient faites pour les femmes. Voilà.
Très bien.
Donc, mais on n'y parlait pas que de tricot, je te rassure. Hein, ou de cuisine. Il y avait des auteurs, des écrivains qui étaient invités, etc.
Et ça passait à quelle heure? Ça passait quand? Pardon, c'était pas la question.
C'était tous les après-midi à partir de 14h. Ou...
Mais quelle décennie?
Ça, c'était dans les années 70-80. Et donc, ils étaient calqués sur cette émission mythique. Hein, tu peux regarder sur YouTube, tu verras des extraits de...
Mais je crois que c'est ma mère qui m'en a parlé.
Demande à ta mère, elle doit connaître. Donc, il avait intitulé ça « Demain, monsieur ». C'était sur la représentation d'homosexualité à la télévision française, où on voit donc une évolution où l'homosexualité passe des émissions médicalisées d'abord, après à des débats de société, où voilà, l'homosexualité, ce douloureux problème, par exemple, c'est le nom de certaines émissions de documentaires ou des styles, comment ça s'appelait, je me souviens plus. Tu sais, il y avait des missions, on passait un film, puis après, il y a les dossiers de l'écran.
Ah.
Voilà. Il y avait un dossier d'écran qui s'était intitulé « L'homosexualité, ce douloureux problème ». Bon. On y voyait aussi les déclarations à l'émission de Bouvard. Bouvard avait une émission dans les années 70 très, très suivie. On voit Jean-Louis Borry qui fait son coming out chez Bouvard, façon très amusante, où la présentation du film « Race d'Ep » de Guy Hockenheim et Lionel Soukaz par Jean Edernalier. Mort de rire, avec à côté les Charlots, tu sais, qui viennent de présenter leur dernier film. Voilà, c'était... C'est un documentaire qui vaut son pesant d'or. Bon. Il se trouve que cette année, pour l'anniversaire, le 20e anniversaire, ils refont une nuit gay, qui n'est pas tout à fait une nuit, c'est un peu plus court. Et celui qui avait réalisé ce documentaire-là, qui s'appelle Roger Royer, c'est celui qui réalise le documentaire d'entrée de la soirée anniversaire. Enfin, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il y a eu aussi la diffusion de deux films, dont un film avec Glenn Close sur une femme homosexuelle dans l'armée américaine.
Je l'ai jamais vu celui-là.
C'est pas vrai.
Mais j'aimerais bien le voir.
Eh ben, il fallait en 1995 regarder la nuit gay, tu l'aurais vu.
C'est une histoire vraie.
Une histoire vraie, absolument. Voilà, enfin, on avait vu plein de choses très intéressantes. Sans compter qu'on parlait aussi quand même, sans mettre le VIH, parce que c'était encore les années les plus fortes l'épidémie, on avait aussi des personnes séropositives qui s'exprimaient. Notamment dans le cadre du Tour de France, on voyait un jeune séropo dans un village perdu aussi du sud-ouest de la France. C'était assez émouvant comme...
Et on aimerait savoir tout ce que c'est, ce que ces gens sont devenus d'ailleurs. Oui. Ils auraient dû. Voilà, Canal Plus, retrouver ces gens pour refaire à nouveau.
Retrouver le couple, les mamans de Boris.
Les mamans de Boris. Les enfants doivent être grands, ils ont plus de 20 ans, et etc. etc. Ça peut être... Alors, c'est pas Roger Royer, pardon, c'est Michel Royer le nom du réalisateur. Je me suis trompé de prénom. Roger, c'est le nom de mon grand-père, mais ça, tout le monde s'en fout.
Non.
Voilà. Donc, Canal Plus qui.
J'ai pas de Roger chez moi.
Très bien. Alors, en tout cas, Canal+, qui renouvelle, donc, enfin, toutes les années, il y a toujours une soirée thématique gay. Ils appellent la nuit gay, mais c'est un peu exagéré, on pourrait dire.
Ces dernières années, c'était gay. Un peu léger,
voilà.
Quand même.
Hein. Ils auraient pu appeler ça leur gay, voilà. Ouais. C'est un petit peu léger, effectivement. Cette année, quand même, ils ont décidé de marquer le coup. Ça sera mardi 20 octobre sur Canal+, donc pour ceux qui l'ont. Qui sont abonnés, ils vont fêter les 20 ans de la nuit gay, donc avec deux documentaires, celui dont j'ai parlé de Michel Royer, qui est un documentaire sur 20 ans donc, d'évolution de la condition des personnes homosexuelles en France, femmes et hommes. Et puis, ensuite, ça sera suivi d'un documentaire sur l'homophobie. Bon, puis ils vont diffuser Ma vie sur Liberace.
Oui.
Hein, et le film britannique Pride, dont et nous Pride. Avons parlé. Puisque c'est à cette occasion qu'on a donc introduit l'émission pratiquement avec Grace Jones.
Grace Jones.
Voilà. Donc du coup, ben ça c'est mardi 20 octobre pour fêter la grande nuit gay de Canal+, les 20 ans. Petit rappel vite fait, il y avait aussi une émission sur les transgenres. Mais à l'époque, on disait transsexuel. Le mot transgenre n'était pas employé. Ouais. Enfin, ce n'était pas une émission sur les transgenres d'ailleurs, c'était sur le travestissement en général, dans lequel intervenait un transgenre célèbre de l'époque, contemporain de Bambi d'ailleurs, que nous connaissons bien, c'est Coccinelle, et qui intervenait, mais c'est vrai que Coccinelle d'ailleurs disait « Pourquoi on nous appelle des transsexuels, c'est moche ce nom, etc. » Elle avait parfaitement raison, d'ailleurs maintenant on ne dit plus transsexuel, on dit transgenre, qui est beaucoup plus approprié. Et il se trouve que l'émission donc, de Canal+, s'était terminée par un générique qui est devenu célèbre, figure-toi, parce que dans ce générique était repris le discours de la salle Pleyel. Alors, le discours de la salle Pleyel, qu'est-ce que c'est ? Ménie Grégoire. C'est très, très vieux, Ménie Grégoire. Très, très vieux. Hein, Bernardo ? C'est vieux, hein. Pour te dire. Hein. Donc, du coup, Ménie Grégoire avait une émission de radio très célèbre, notamment, sur RTL, où elle parlait beaucoup de sujets de société, etc., avec des intervenants qui appelaient, etc. Et là, elle avait organisé un plateau carrément radio à la salle Pleyel à Paris. C'est le 10 mars 1971, qui est considéré comme notre Stonewall à nous autres Français de la France. Donc, du coup... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'elle avait invité plein de gens. Il y avait Alain Baudry, le fondateur de l'Arcadie. Il y avait un prêtre qui est venu parler de la souffrance des homosexuels. Et d'ailleurs, ça a été un peu le déclencheur, à un moment donné, d'un tollé général, parce que dans la salle, il y avait beaucoup de représentants, de militants du phare, de ce qui allait devenir le phare. D'ailleurs, le phare s'est construit quelques jours après. Le Front d'Action Homosexuel Révolutionnaire, enfin, c'est pas dans cet ordre-là, mais on m'avait compris. Parce qu'à l'époque, ils étaient très à gauche, tu sais, les militants homosexuels. Mmh. Et du coup, ça c'est d'un seul coup, il y a eu un grand mouvement dans la foule de cris de colère, de contestation. Ménie Grégoire a failli mourir. Non, j'exagère. Non, c'est mon côté, exagère. Non. Mais elle s'est repliée quand même. Elle n'a pas pu terminer l'émission, évidemment. Et ça a été le début. Alors, le générique de fin de Stonewall, l'avantage de Stonewall, de la nuit de Canal+, notre Stonewall gay reprend donc en partie le discours, l'émission du 10 mars 1971. Voilà. Très on bien. Entend Ménie Grégoire parler, Alain Baudry, le prêtre que j'évoquais, la foule qui hurle. On va l'entendre là maintenant. C'est un moment historique.
D'accord.
Et ça constituait le générique de fin de la nuit gay.
Voilà, le jour se lève.
La nuit touche à sa fin.
Une nuit pour faire avancer le schmilblick.
La nuit gay, c'est comme un ghetto qui se saborde.
Oui, mais moi je trouve que vous n'allez pas assez loin. Enfin, imaginez que l'homosexualité devienne un modèle social. Eh bien, je ne sais pas, nous serions très vite par produit. Enfin, je ne sais pas, il y a tout de même là quelque chose, il y a une norme de vie. Il y a tout de même une négation de la vie et des lois de la vie dans l'homosexualité. Je pense tout de même qu'on peut répondre ça sans blesser personne, il me semble. À vous la salle.
Bon, alors on parle de l'homosexualité d'une façon absolument horrible, comme s'il fallait la justifier, comme si l'hétérosexualité était quelque chose de naturel. Alors, on sait maintenant parfaitement que tout individu est bisexuel, qu'il n'y a pas de détermination sexuelle autre que sociale.
On n'entend plus rien, Claudia. Arrêtez, on n'entend plus rien. Elle a posé sa question. Évidemment, Freud a établi une bisexualité originelle, mais il ne nous a pas dit qu'on allait rester bisexuel jusqu'à notre mort et qu'on n'allait pas se reproduire, il nous a donné le moyen de choisir un sexe. Hein. Nous avons d'ailleurs ici, dans l'Assemblée, un travesti qui a choisi un autre sexe que le sien. Eh bien, je vous assure, ce qu'elle nous a dit tout à l'heure n'était pas en ballant. Hein. Elle n'arrive pas à vivre.
La question qu'il pose à propos d'homosexualité, c'est la question de la répression des homosexuels et non pas la question de pourquoi est-ce qu'ils le sont devenus.
Nous la posons. Moi, je tiens à poser les deux questions. Savoir pourquoi ils le sont devenus intéresse beaucoup notre public et beaucoup les parents qui ont des enfants. Mais on peut poser la question de la répression. Qui veut parler de la répression? Lançons la répression. Qui veut parler? Il y a des mains qui se lèvent partout. Les homosexuels semblent souffrir de répression. Qui nous disent ce qu'ils en pensent?
La répression de l'homosexualité, on pourrait poser la question de savoir quelle est l'influence justement des familles coercitives sur la fabrication des homosexuels.
Ça, c'est une très belle question. Quand vous dites ça, d'ailleurs, vous avez une prise de position personnelle. Vous semblez croire, comme moi, que c'est tout de même pas un bien d'être homosexuel. Vous accusez les familles d'avoir rendu des gens homosexuels. Et je vous suis totalement, car je pense que les familles sont dans le coup. Là-bas, s'il vous plaît, le micro.
Bon. Alors, moi, je voudrais continuer à propos de la coercition familiale. Que cette coercition oblige les jeunes enfants, les jeunes garçons et filles à être hétérosexuels. Et qu'il faut partir, quand on veut parler de la sexualité, de la bisexualité. On est tous bisexuels et qu'il faut prendre ce point de départ sur la sexualité. J'aimerais demander aussi à monsieur le psychanalyste ce qu'il entend par attitude virile en amour. Et vis-à-vis de la femme,
écoutez,
vis-à-vis de
l'homosexualité. Les hommes qui sont à l'écoute savent très bien ce que c'est, les femmes aussi. Mais si vous posez la question, vous m'étonnez tout de même. Vous savez bien que ça existe, vous savez bien que les femmes heureuses sont celles qui rencontrent des hommes qui les ont satisfaites. Voyons. Mais évidemment. Écoutez, on n'entend pas, Claudia, on n'entend pas la personne qui est là. Je voudrais donner la parole à monsieur Baudry qu'on n'a pas encore entendu. La revue Arcadie. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la parole à monsieur Baudry? On l'a demandé de venir pour témoigner, justement. Allez-y.
Il est bien difficile de répondre valablement à tout ce qui a été posé comme question.
Allez-y, continuez, je vous entends.
Mais je voudrais surtout dire ceci. Je voudrais aussi bien le dire à ceux qui sont dans cette salle, qu'au paraît-il quelques 2 millions d'hommes et de femmes de France qui en ce moment écoutent cette émission à la radio chez eux. Mesdames, messieurs, autour de vous, au milieu de vous, dans votre famille, dans votre entourage professionnel, dans votre village, partout, il y a des homophiles que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir le préfet de votre département, il peut y avoir le curé de votre paroisse, il peut y avoir votre frère. Parfaitement.
Oh là là, écoutez, je suis un peu désolé du bruit de la chatte qui nous permet pas de continuer. Vous voyez à quel point le débat est passionné, mais nous continuons quand même bravement.
Cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible.
C'est plus de votre souffrance.
Oui. Ah, écoutez, alors là, je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la foule a envahi la tribune et que des homosexuels...
Liberté !
Des homosexuels de tout ordre, hommes et femmes...
Nous demandons la liberté pour nous.